Bonjour à tous. Vous avez vu ce beau soleil, on a dû descendre les stores pour se protéger du soleil. C'est bien. Je voudrais commencer par vous faire la pub d'un livre. Ce livre est vraiment quelque chose de formidable, je vous le recommande. Parce que, voilà, beaucoup de chrétiens se trompent sur des tas de choses, et beaucoup de scientifiques se trompent sur beaucoup de choses, et là, il y a un lien qui est fait entre la science et les choses de la Bible, de la foi, de Dieu, et c'est magnifique. C'est très bien fait, c'est très intelligent, et c'est absolument accessible à tout le monde, puisque même moi je le comprends. Donc pour ceux qui ne regardent pas la vidéo, c'est un livre qui s'appelle « Dieu, la science, les preuves ». L'aube d'une révolution. L'éditeur, c'est Guy Trédaniel. Je vous le recommande. Il est préfacé par Robert Wilson, prix Nobel de physique. Et c'est très, très intéressant. Vraiment, je vous le recommande. Moi, je le lis vraiment petit à petit parce que c'est quelque chose que je veux me souvenir de ce que j'ai lu pour pouvoir le dire, afin de pouvoir donner un bon témoignage à la gloire de Dieu. Amen. Eh bien, écoutez, ce matin, on va commencer par lire un texte dans les Saintes Écritures, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, verset 17. Je prends la version, la vieille version de Alfred Kuhn, la parole vivante. J'aime pas trop la nouvelle, mais j'aime bien l'ancienne. L'ancienne, c'est celle-là. Jean, chapitre 6, verset 17. Je commence à lire. Pour commencer, verset 15. Jésus, pressentant qu'il viendrait l'enlever de force pour le proclamer roi, c'était la foule qui voulait le proclamer roi, se retire de nouveau tout seul, plus loin, dans la montagne. Le soir, ses disciples redescendent au bord de la mer, ils montent dans la barque et se dirigent vers Capernaum, sur l'autre rive. Déjà, la nuit est tombée et Jésus ne les a pas encore rejoints. Un vent violent se met à souffler, soulevant de fortes vagues. Toute la mer devient houleuse. À force de ramer, les disciples ont parcouru 5 ou 6 kilomètres quand, tout à coup, ils aperçoivent Jésus marchant sur l'eau en direction de la barque. L'épouvante les saisit. Mais Jésus leur dit, « N'ayez donc pas peur, c'est moi. » Alors ils s'empressent de le faire monter dans la barque et au même instant, ils touchent terre à l'endroit même où ils veulent aller. Amen. Jésus ne les avait pas encore rejoints. Ils étaient partis seuls. Les disciples étaient sur le lac et ils étaient une douzaine d'hommes, mais seuls, sans Jésus. Et on peut être avec plein de monde, mais si on est sans Jésus, on est seul. Soudain, Jésus s'approche d'eux en marchant sur l'eau, et ça leur fait peur. Dans la version seconde, il dit, ils l'ont pris pour un fantôme. Et là, Jésus leur dit une chose que les traducteurs ont amoindri. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je connais quelques théologiens. Je crois comprendre pourquoi ils font ça, mais je ne veux pas être méchant. Dans nos textes actuels, Jésus leur dit « C'est moi, soyez sans crainte ». Or, dans le grec, c'est pas ça. Dans le grec, la vraie version, Jésus dit exactement « Je suis, soyez sans crainte ». Quand il dit « Je suis », il prend le nom de l'admirable, de l'éternel, révélé à Moïse, on trouve ça dans Exode 3, 14, quand Moïse dit, mais quel nom est Dieu, mais quel est ton nom, qu'est-ce que je veux dire au peuple? Dieu lui dit, je suis celui qui suis, je suis. Voilà mon nom. En disant, je suis à ses disciples, Jésus indique que lui-même est la révélation de ce nom. Vous me suivez? Et qu'il est lui-même, le Père éternel, manifesté dans la chair, manifesté comme Fils unique, manifesté en tant qu'homme sur cette terre. Et nous, parce qu'il est, nous pouvons nous sentir en sécurité, même si nous sommes en train de ramer seuls ou à plusieurs. Alors les disciples s'empressent
de le faire monter dans leur barque, mais aussitôt, à l'instant même, la barque touche terre et ils arrivent, ils sont là où ils devaient aller. On trouve ça donc dans Jean 6, verset 21, on vient de le lire. Ils sont partis sans Jésus dans leur barque. Non pas que Jésus ne voulait pas aller avec eux, mais Jésus se cachait de la foule qui voulait le couronner roi. Et Jésus ne voulait pas ça. Alors il s'est donc caché dans la montagne et les disciples sont partis avec la barque. Et Jésus rejoint les disciples au moment voulu par lui. C'est lui qui décide quand il veut réapparaître. Jésus est la seule lumière de ce monde. Alors, il ne faut pas suivre quelqu'un d'autre, même pas moi, parce que personne n'est « je suis », sinon notre Dieu parfait. Alors, bien sûr, je dis des vérités, bien sûr, tous les pasteurs disent plus ou moins des vérités, mais on ne doit pas suivre un homme, on suit le Seigneur Jésus-Christ. Quand on lit l'évangile de Jean, on s'aperçoit que la lumière et l'obscurité sont un thème permanent. Ça commence déjà au chapitre 1, au verset 5, où il est dit « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie ». Voilà pour ce qui est de nos traductions, pauvres traductions françaises. La vie, normalement ça devrait être traduit comme ça, « La vie était la lumière dans la conscience de tous les genres d'hommes ». Et le raisonnement de cette lumière a brillé dans les ténèbres de l'ignorance, et les ténèbres de l'inconscience ne l'ont pas reçu, perçu, vaincu, saisi, maîtrisé. Voilà. Le grec est une langue très riche. Alors les théologiens choisissent des mots, et puis très souvent ça tombe un peu flop. C'est dommage, c'est pourquoi ceux qui me disent « Oh, il n'y a pas besoin de faire des études, le Saint-Esprit nous guide. » Ok, d'accord. Ben, moi, je dis que c'est quand même bien de faire un peu des études. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a beaucoup de nuances dans les mots grecs. Mais quelle que soit notre lecture, il faut savoir que pour nous qui sommes chrétiens, qui avons confié notre vie à Jésus, qui l'avons invité dans notre barque, l'obscurité ne peut jamais l'emporter sur les ténèbres. Parce que notre foi en Jésus, en « Je suis », est une vision infrarouge dans l'obscurité. On voit, la foi rend visible ce qui est invisible. C'est ce que c'est que les infrarouges. Ça nous permet de voir dans la nuit. Et ce qui peut nous faire peur, parce que les disciples ont eu la trouille, ce qui peut faire peur, bon, il y avait déjà la mer qui commençait à se soulever, à faire une tempête, mais en plus, ils voyaient Jésus arriver marchant sur l'eau, déjà, c'est pas tout à fait normal, et ils le prennent pour un fantôme. Et ce qui nous fait peur disparaît parce que je suis, notre Dieu, Jésus, se révèle, il dit, je suis, n'ayez pas peur, c'est moi. Au milieu de la mer, au milieu de la foule, Jésus ne nous oublie pas, ne vous oublie pas, vous. Il ne vous oublie pas. Et même s'il se cache, c'est pas de vous dont il se cache. C'est que c'est nécessaire pour un temps. Voilà, on dirait que, alors les gens disent, oh, je sens plus la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Ça veut pas dire que Dieu n'est pas là. Il nous laisse ramer un moment, on sait ce que c'est, hein, ramer dans la vie, et il nous rejoint. Il nous rejoint et sa présence n'est jamais selon les normes de la religion. Et il n'est pas apparu religieusement, il est apparu spécialement, miraculeusement, bizarrement. Il aime bien faire ça, Jésus. Il se révèle d'une façon spéciale en marchant là, où le commun des mortels, si religieux soit-il, ne marche pas sur l'eau, sur un élément pas possible. Ça, c'est les façons de Jésus. Et au moment où on le reconnaît, au moment où on invite à monter dans notre barque, il n'y a plus besoin de ramer. On est arrivé à destination. Au moment où Jésus rentre dans votre barque, vous êtes à destination. Il faut retenir ça. On fasse des choses qu'on ne comprend pas. On se pose souvent des questions. J'aime bien les gens qui disent « Je me demande si... » Vous vous demandez, mais vous n'avez pas la réponse puisque vous vous demandez. Ne vous posez pas la question à vous-même, posez la question à ceux qui savent. Les disciples étaient éclairés parce qu'ils ne se posaient pas des questions à eux-mêmes, mais ils les posaient à Jésus, à la lumière. « Je me demande si... » Arrête de te demander des trucs. Tu ne sais pas, c'est pourquoi tu te demandes. Arrête de demander à toi. Demande à ceux qui savent. Demande à Jésus, demande à ses serviteurs fidèles, ils pourront te répondre. Un jour, un homme aveugle, il était là devant les disciples, devant Jésus, et les disciples ont posé la question habituelle, religieuse, n'est-ce pas ? À Jésus, ils ont dit, est-il aveugle à cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents ? Question de ténèbres, question religieuse, question superstitieuse, question de condamnation, vous voyez, pleine de suspicion, hein, voilà, c'est typique ça. Et Jésus met la lumière là-dessus, il dit, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jean chapitre 9. Et il ajoute, on devrait le traduire ainsi plutôt, pendant qu'il est jour, il nous faut accomplir les réalisations de celui en moi qui me transperce de sa présence. La nuit de l'inconscience vient dans laquelle personne ne pourra agir. Et puis il a guéri l'aveugle. Il dit que celui qui est en lui, Jésus, le transperce de sa présence, c'est-à-dire quelque chose, une force, quelque chose de puissant, la puissance de Dieu, le transperce, sort de lui pour guérir le malade. Plus tard, il dira, dans Jean 14, 12, il est dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les mêmes œuvres que je fais, et même de plus grandes. » Vous voyez, à cause de ce verset de Jean chapitre 9, il n'y a qui disent, voilà, on est arrivé dans l'époque où il ne peut plus y avoir de miracle parce que Jésus n'est plus dans ce monde. Parce que Jésus dit, tant que je suis dans ce monde, alors puisqu'il n'est plus dans ce monde, ben, il n'y a plus de miracle. Mais ça, c'est parce qu'ils ont mal traduit. On va lire ça, on lit ça dans nos pauvres traductions, mais voilà ce qui se rapproche le plus du grec. Voilà comment c'est écrit. « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je me transporte pour m'exprimer comme Père dans la source de l'existence éternelle. » C'est pas parce que je m'en vais au Père, donc je suis plus avec vous, je suis plus dans ce monde, donc il n'y aura plus de miracles. C'est pas ça que Jésus dit. Il dit, vous ferez des miracles parce que je me transporte pour m'exprimer comme Père dans la source de l'existence éternelle. Ça, c'est la bonne version. Ça veut dire la même chose que nos vieux textes mal traduits, mais comme c'est dit d'une façon plus précise, on le comprend mieux. Vous comprenez cela ? Pourquoi les théologiens amoindrissent toujours les paroles de Jésus, notre Dieu venu en chair ? C'est quand même un mystère. C'est ce qui fait que, en ce moment, ce n'est plus Jésus qui se cache dans la montagne, comme dans Jean chapitre 6, verset 17, c'est nous qui sommes cachés, laissant les gens ramer tout seuls dans leur barque, parce que la parole de Dieu écrite n'est pas toujours très claire. Et parce que les chrétiens ont la flemme d'étudier, de chercher, pour comprendre. Révélons-nous aux gens. Jésus vit en nous et il veut nous transpercer pour que sa présence guérissante puisse atteindre les gens. Jésus dit que comme lui il est, nous sommes dans ce monde. Quand Matthieu raconte cet épisode de Jésus marchant sur l'eau, il dit qu'ils étaient affolés, ils croyaient voir un fantôme, Matthieu 14, 26. Et vous pourrez peut-être apparaître comme des fantômes, comme des êtres spéciaux, comme des trucs bizarres, mais peu importe, vous êtes à même de prouver que Jésus vit en vous. C'est ça qui est important. C'est pas que du blablabla, du témoignage blablabla, c'est des témoignages de puissance. Il peut vous arriver d'être seul, vous, même en étant entouré, et vous êtes en train de ramer, et les vents sont contraires, et Jésus n'est pas dans votre barque, on dirait qu'il se cache, et puis vous tombez sur révélationbible.fr, et ça vous trouble, ça ne ressemble pas à ce que vous connaissez de Jésus, et pourtant c'est Jésus qui vous rejoint, et qui vous dit « n'aie pas peur, c'est moi ». Vous voyez ce que je veux vous dire ? C'est pas par hasard que vous venez écouter Révélation Bible. Et au moment où vous le laissez entrer dans votre barque, c'est-à-dire dans votre vie, au moment où vous déposez vos peurs, où vous déposez vos doutes, où vous laissez tomber ça, et que vous faites monter Jésus dans votre barque, alors vous arrivez au port. Et vous arrivez au port pour faire quoi ? Pour aller dire aux gens, pour aller montrer aux gens la manifestation de la puissance de Dieu. On va relire Jean chapitre 9, verset 4-5 dans la parole vivante. Jean 9, 4-5 dans la parole vivante. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit s'approche où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. De ce texte, les gens, à partir de ce texte, les chrétiens disent « Jésus n'est plus dans ce monde, donc ça n'est plus possible maintenant de faire ses œuvres. » Il l'a fait quand il était dans ce monde, dans ce corps de chair semblable à la nôtre, mais il est toujours dans ce monde. On dira « Bon, il est où ?» Mais il vient en vous. Il vient en vous, par vous, au travers de vous. Et nous avons à faire ce qu'il faisait quand il était dans ce monde, dans un corps comme le nôtre, et il faut se dépêcher parce que l'heure vient où ça sera plus possible. L'heure vient où ça sera plus possible. C'est quand que ça sera plus possible ? Eh bien, quand l'Église, la véritable épouse de Christ, sera enlevée de la terre. Là, ça sera plus possible. Parce que Jésus va partir avec nous. Nous partirons, alors il partira avec nous, et il laissera le monde à l'abandon, et ça sera ce qu'on appelle la grande tribulation. Jésus est la lumière du monde qui brille par vous en ce moment. Il faut vous dépêcher. Ne vous cachez pas. Apparaissez, même si c'est un peu bizarre. Apparaissez. Montrez-vous. Témoignez. Parlez. Faites des miracles. Faites-le. Les gens qui sont en train de ramer dans leur vie penseront peut-être que vous êtes un fantôme, un truc bizarre, et peu importe, vous êtes à même de les faire arriver à bon port, vous êtes à même de changer leur vie, vous êtes à même de les pardonner au nom de Jésus. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de pardonner, vous serez à même de pouvoir les guérir en son nom, de la part de Jésus qui est en vous. Jésus est encore dans ce monde, en vous. Il s'est incarné en vous, ça veut dire qu'il est venu vivre dans votre chair. Jésus était l'image du Dieu vivant, et aujourd'hui c'est vous l'image du Dieu vivant. Parce qu'il est en vous. Alors ne vous cachez pas. Ne vous cachez pas. Apparaissez aux gens, montrez-vous. Vous êtes témoin, pas de Jéhovah, mais de Jésus-Christ. Vous avez tout reçu pour accomplir la réalisation de celui qui vit en vous transperçant de sa présence. Il est en vous, et vous priez pour qu'il fasse ce que vous voulez faire. C'est de la religion. Ne vous sous-estimez pas. Montrez-vous. Montrez que Jésus est en vous. Faites des actes de foi. Il a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même s'il semble qu'il n'est pas là, il est là. Maintenant, je vais vous poser une question. Quel est votre nom ? Parce que Jésus se présente. Et il dit, il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Et alors, vous, quel est votre nom ? Quel est votre nom ? On va lire Philippiens 2, 6, 11, toujours dans la parole vivante. Écoutez comme c'est beau. Le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine, un avec le Dieu Saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaisse à lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres, ici-bas, voulu naître en simple serviteur, esclave volontaire, il a vécu sur terre, sans éclat, sans honneur. Parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, et tout semblable à nous, humble, sans apparence. Dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Au trône de la lumière, il fut, par Dieu son Père, élevé roi des rois. À lui, honneur, suprême couronne, diadème et sceptre tout-puissant, Jésus, nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants. Devant Jésus le Maître, un jour devront apparaître hommes, anges, démons, dans les cieux, dans ce monde, sous la terre, sous l'onde, tous genoux fléchiront. En Maître, tous l'acclament, toute bouche proclame, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père, le ciel, l'enfer, la terre, exalte le vainqueur. Quel est votre nom ? La Bible nous dit que nous sommes, nous qui sommes des croyants, nous sommes l'épouse de Christ. Vous avez donc le même nom que lui. Vous portez son nom. Tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus que vous portez. Refusez de porter un autre nom, de glorifier un autre nom. Vous êtes quand on vous demande, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes chrétien, ne dites pas, oui, oui, je suis catholique, je suis protestant, je suis baptiste, je suis pentecôtiste, je suis brahmanie, je suis mormon, C'est des noms de blasphème. C'est écrit dans Apocalypse 3, 1. Ce sont des faux noms, des noms humains. Vous portez le nom de votre époux, de Jésus. Êtes-vous un enfant de Dieu ? Oui, Jésus vit en moi. Je porte dans mon cœur Jésus-Christ le Seigneur, et mes yeux chaque jour resplendissent d'amour, d'amour. Vous connaissez ce petit chant, non ? Ben, vous avez bien tort. C'est un chant qu'on chante chez nous. Prêt de chanter tout à l'heure, là. Il est en vous, comme le Père était en l'homme Jésus. N'en doutez plus, mes frères et sœurs, n'en doutez plus. Vous ramez, vous êtes là en train de ramer. N'ayez plus peur. Vous êtes arrivé au port parce que vous avez compris que Jésus vous a rejoint. Il est dans votre barque, il est avec vous, il est toujours avec vous, même s'il semble être caché, il est avec vous, il est en vous. Alors maintenant, puisque vous êtes arrivé au port, comme la barque a touché la terre, vous êtes arrivé au port, vous êtes sur la terre, eh bien sortez de votre barque et montrez-vous au peuple pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. Merci Jésus de bénir mes frères et sœurs et qu'ils aient cette plénitude du Saint-Esprit qui les pousse à témoigner. Au nom de Jésus, je te le demande, mon Seigneur. Amen. Amen. Au revoir, à bientôt.